Alors, Raphaël, coup de tonnerre ce matin à Washington, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, qui annonce sa retraite.
En effet, et là, il faut comprendre qu'on parle d'un départ, mais ce n'est pas un départ tout de suite. Il va terminer son mandat actuel qui se termine à la fin de l'année, mais ne briguera pas un nouveau mandat dans le contexte des élections demi-mandat de novembre 2018. Là, ça, c'est très, très gros. Parce que lorsqu'on parle du président de la Chambre des représentants, bien, on parle en fait du troisième individu dans la ligne de succession présidentielle. Tu as le président, le vice-président, et après ça, c'est le président de la Chambre des représentants. Donc, un poste excessivement important constitutionnellement. Et c'est le numéro un du caucus majoritaire à la Chambre. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, les Républicains, parce qu'ils sont majoritaires. Et donc, Paul Ryan qui annonce son départ, il y a beaucoup de choses là-dedans. À quoi est-ce que c'est dû? Bien, d'abord et avant tout, au fait que le type n'avait jamais vraiment convoité ce poste-là. Il en avait essentiellement hérité parce qu'à peu près personne d'autre en voulait, parce que c'est excessivement difficile. Non seulement le boulot de président de la Chambre de façon générale, mais surtout au niveau républicain présentement, surtout depuis les dernières années, parce que c'est un caucus qui est très, très profondément déchiré et divisé. C'est pas facile, donc, de diriger ces troupes-là. Il y avait ça. Il y a aussi le fait que, et ça, c'est un secret pour personne, la dynamique avec le président de son propre parti, le président Trump, était tortueuse. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. C'était difficile. Et finalement, Paul, il faut le dire clairement, là, la majorité républicaine, elle est à risque. Et ça, tout le monde le voit. Paul Ryan, le premier. C'est pas mal plus fun de diriger un caucus qui est majoritaire qu'un caucus qui est minoritaire. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on quitte du côté de Paul Ryan et on contribue à un cercle vicieux, justement, pour les chances des républicains de garder la majorité. Parce qu'évidemment, le signal que ça envoie à l'ensemble des troupes républicaines, c'est que le numéro un même du caucus croit qu'il y a des assez bonnes chances pour vouloir partir. Et d'ailleurs, ça a pris à peine quelques minutes ce matin, après l'annonce du départ de Paul Ryan, pour qu'il y ait un autre élu républicain de la Chambre, de la Floride, qui annonce que lui aussi ne briguera pas un nouveau mandat. Et ça portait en fait le compte, le décompte des élus républicains à la Chambre qui ne seront pas là l'an prochain à 41, Paul. C'est 41
départs. C'est énorme. Hey.
C'est historique.
Mais d'ailleurs, j'ai lu un article en ce sens-là qui dit que ces 41-là que tu viens de mentionner et le fait que Paul Ryan, le président de la Chambre, quitte le navire peut-être avant un naufrage à l'automne prochain, ça modifie profondément les valeurs du Grand Old Party, c'est-à-dire du Parti républicain, qui vont se modeler probablement beaucoup plus au président, aux idées du président, que ceux qui disent « mais il n'a pas de bon sens, c'est pas républicain ce qu'il fait ».
Bien, peu importe quelle analyse tu as lu, Paul, il y avait pas mal de gros bon sens là-dedans, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de vérité là-dedans. C'est-à-dire que la relation entre Paul Ryan et Donald Trump n'était pas seulement difficile à cause de différents personnels. D'un côté, on avait un politicien de carrière très discipliné. De l'autre côté, on avait quelqu'un qui n'est pas tout à fait un politicien de carrière très discipliné, on va le dire comme ça. Mais tu avais aussi un fossé idéologique très profond. Tu avais une lutte interne pour ce qu'est et ce que devrait être l'identité du Parti républicain. Est-ce que c'est un parti conservateur? Est-ce que c'est un parti populiste? Et là, clairement, l'aile populiste qu'exemplifie, que représente Donald Trump vient de gagner une manche importante avec le départ de Paul Ryan.
Bon, là, il en a aussi plein les bras avec la réponse militaire promise à l'attaque chimique menée en Syrie. Escalade, on en a parlé très sérieusement avec Norman Lester. Aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine, vraiment inquiet, a dit à la presse dans une entrevue « il faut qu'on puisse retrouver le gros bon sens dans cette diplomatie ». Or, le président Trump, de bonne heure ce matin, a pris de court, comme d'habitude, son entourage en disant « on va tirer des missiles ».
Et le faisant comment déjà, Paul?
Oui.
Via Twitter.
Par Twitter. Alors, il a télégraphié son opération alors que, tu te rappelles?
Oui.
Il avait reproché à ses prédécesseurs, dont Barack Obama, de télégraphier les opérations militaires américaines.
Bien, deux choses, Paul. C'est-à-dire que non seulement il fait quelque chose qu'il a reproché à ses prédécesseurs au niveau de la tactique, mais il va vraisemblablement s'apprêter à faire quelque chose qu'il reprochait aussi à ses prédécesseurs au niveau du fond, c'est-à-dire intervenir à nouveau dans un pays du Moyen-Orient où il y a un conflit qui n'interpelle pas directement les États-Unis. Je dis à nouveau parce que n'oublions pas que l'an dernier, évidemment, Donald Trump avait orchestré une première frappe limitée, mais néanmoins une frappe militaire aérienne sur la Syrie. Et là, je pense que c'est assez inévitable qu'il risque d'y en avoir une deuxième dans le contexte actuel. Écoute, tu parlais de l'entrevue que Vladimir Poutine a donnée au niveau du gros bon sens, entre guillemets, qui devrait régner. On verra à quoi ressemblera le gros bon sens en question. Ce que je te dirais, par contre, et je crois que c'est très, très important de le dire, c'est que Donald Trump n'est pas seulement sorti pour vanter la beauté, la nouveauté et l'intelligence des missiles qu'il allait lancer. Il est aussi sorti sur Twitter ce matin pour dire que, selon lui, les relations entre les États-Unis et la Russie étaient à leur pire depuis le début de l'histoire, en incluant toute la période, toutes les décennies couvertes par la guerre froide. C'est quand même pas loin, même...
Mais tu sais pourquoi? Il a expliqué dans un deuxième tweet, il a expliqué pourquoi les relations sont aussi mauvaises. C'est à cause de l'enquête de Robert Mueller sur la possible ingérence russe dans l'élection. Il n'en dément pas.
Tu me voles les mots de la bouche, Paul. C'est exactement là que je m'en allais. Écoute, c'est surréel. Donc, le président qui non seulement... Il va d'une sortie assez dramatique, merci, mais en plus trouve le moyen d'incorporer Bob Mueller, le procureur spécial, le traiter à nouveau de partisan et qualifier son enquête de corrompu et de, pardonne-moi l'expression, fake. Donc, écoute, c'est quand même quelque chose. Je te laisse avec deux observations, je crois qu'on a très peu entendu dans les médias, mais qui sont importantes d'être mentionnées. La première, c'est que, écoute, tu as assez suivi l'actualité politique depuis les dernières années, en fait, pour avoir entendu des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois, des commentateurs qualifier Donald Trump de pantin de Vladimir Poutine. Là, à l'heure actuelle, là, j'aimerais savoir ce que ces gens-là disent, parce qu'on est dans une situation où Donald Trump est sur le point d'agir comme tout sauf un pantin de Vladimir Poutine. Et le deuxième point, et ça, on parle souvent de ce que Donald Trump va faire, pourrait faire, devrait faire. On ne parle pas dans ce contexte-ci, et on devrait en parler, de l'héritage qu'il a reçu de la part de son prédécesseur. Parce que je m'excuse, mais la situation, la crise syrienne, le bordel syrien, évidemment, son prédécesseur Barack Obama n'en est pas responsable. C'est pas lui qui a commencé cette situation-là. Mais il reste qu'en 2014, alors que Barack Obama en était en son deuxième mandat, lui et son administration avaient garanti que suite à un accord qu'ils avaient justement conclu avec la Russie, c'était 100%, Paul, je le répète, des armes chimiques que détenait le régime de Bachar al-Assad qui allait être retiré de la Syrie. Or, écoute, on est quoi? Même pas 5 ans plus tard, Donald Trump est là depuis moins de 15 mois et ça fait déjà 2 attaques chimiques avec lesquelles il doit composer.
Et pour corroborer ce que tu viens de dire, rappelons-nous cette déclaration si importante d'Obama, qui n'a pas été respectée par Obama, une ligne rouge. Il n'y aura pas d'utilisation d'armes chimiques, c'est la ligne rouge que nous traçons. Et chimère, ça n'a pas été respecté. Non,
exactement.
Ça n'a pas été respecté du tout. Ce n'était que parole.
Exactement. Et donc, écoute, on a souvent parlé, surtout au début de la présidence Obama, de l'héritage difficile qu'il avait reçu de la part de son prédécesseur, le président Bush. Ben, je m'excuse, mais la question syrienne, c'est un gros œil au beurre noir de la présidence Obama. Et là, c'est son successeur, Donald Trump, qui y goûte.
Et tu peux ajouter à ça qu'on a laissé dans les mains du nouveau président Trump le problème nord-coréen.
Oui.
Alors, avant de dire qu'il a hérité de, comme on dit, d'un plateau royal, c'est pas vrai. Et dans le cas de la crise coréenne, il va peut-être même la régler au mois de mai-juin.
Est-ce que c'est une prédiction, Paul?
Non, c'est pas une prédiction, je dis peut-être.
Peut-être.
Merci, Raphaël.
À demain.
Au revoir.